Le mystère du Kerhaven de Delhi, tome 2, troisième partie, le repère des pirates. Chapitre 1. La guerre avait, comme partout, jeté le trouble et l'angoisse aux alentours de Runesto. Les jeunes gens, les hommes mûrs étaient partis. Plusieurs déjà avaient péri, et d'autres étaient captifs dans les camps allemands. Quelques-uns aussi étaient aveugles ou mutilés, ou atteints pour la vie gravement. Madame de Pinvalas, en dépit de son grand âge et de ses rhumatismes, allait chez l'un et chez l'autre, distribuant avec les bons conseils et les dons matériels, les encouragements, les consolations, relevant les âmes qui faiblissaient, combattant les idées néfastes et anti-françaises que des gens à la solde de l'Allemagne essayaient de répandre dans le peuple de France pour le diviser. Sa petite fille l'aidait dans cette tâche, autant du moins que le lui permettaient ses devoirs maternels. Car, à la fin de l'automne 1914, Armelle avait mis au monde une petite fille, qu'Alain, son parrain, avait voulu qu'on appelât Marie Florita, comme la fiancée dont, à ce moment-là, il n'avait aucune nouvelle encore depuis le début des hostilités. Le lieutenant de Marcy, blessé au cours de la bataille de la Marne, puis retourné au front, avait depuis lors été nommé capitaine et commandait une batterie de 75 en Champagne. Armelle, en son absence, vivaient à Runesto, et toutes deux, l'aïeule et la petite fille, se cachant du mieux possible leurs angoisses, s'encourageaient mutuellement. D'Alain, on avait eu d'assez fréquentes nouvelles, jusqu'au moment où il avait disparu au cours d'une attaque dans le Nord. Deux fois, il était venu passer 48 heures dans sa famille. Déjà décoré de la croix de guerre, à la suite de magnifiques citations à l'ordre du jour, reconnaissant la bravoure et le sang-froid, les hautes qualités militaires dont il avait fait preuve à maintes reprises, et son dévouement pour ses hommes, ainsi que l'influence morale qu'il exerçait sur eux, il venait de recevoir, en outre, la Légion d'honneur, au moment où les siens, subitement, cessèrent d'avoir de ses nouvelles. On présuma qu'au cours de l'attaque allemande, il avait été fait prisonnier, mais c'était le doute affreux que tant de familles connaissaient. De plus, ses soldats l'avaient vu tomber, mort ou seulement blessé, il ne savait. Nouvelle cause de terrible incertitude pour l'aïeul et la sœur. Cette incertitude ne se prolongea pas, d'ailleurs, autant que pour beaucoup d'autres, car, un mois plus tard, Madame de Pinvalas recevait ces quelques lignes. « Je suis vivant, chère bonne maman, et libre, après avoir passé par de périlleuses aventures. Et je ramène Florita. Vous n'y comprenez rien, n'est-ce pas? Mais je vous raconterai tout cela bientôt. » En ce moment, nous sommes à Amiens. Florita, ayant été blessée, a encore besoin de soins. Mais elle ira promptement mieux, assure le médecin, et nous pourrons sans trop tarder prendre le chemin de Runesto. Surtout que personne ne se dérange pour venir ici. Ce serait une fatigue inutile, car, je vous le répète, nous ne tarderons pas à être près de vous. À bientôt donc, bonne maman chérie, et toi aussi, chère Armelle. Ma Florie vous envoie ses plus tendres baisers, auxquels je joins les miens. La marquise, au reçu de ce court billet, manqua de se trouver mal de joie. Puis, la première émotion passée, grand-mère et petite-fille se perdirent en conjectures sur les circonstances qui avaient pu rapprocher Alain et Florita et leur permettre de s'évader ensemble. « La pauvre petite est blessée, disait Madame de Pinvalas. Il faut qu'elle le soit de façon assez grave pour être obligée de rester encore là-bas. Et lui ne parle pas de sa santé. » Les chers enfants ont dû passer par des moments terribles, certainement. Ah, que j'ai hâte de les voir, mes chéris !» En dépit de la recommandation d'Alain, Armelle partit le lendemain pour Amiens, laissant sa petite fille aux soins de l'aïeul, à qui sa santé interdisait ce voyage. Dès le jour même, dans tout le pays, se répandit la nouvelle que monsieur le marquis avait échappé aux Allemands et qu'avec lui revenait mademoiselle Florita. L'écho en arriva jusqu'aux oreilles de monsieur Barouel, le locataire de Kerhaven, par l'intermédiaire de M. Léonard, son domestique, qui avait entendu conter la chose au village en allant faire les provisions. Un formidable juron allemand s'échappa des lèvres de l'anglais, ou soi-disant tel. Puis, quittant la pièce où il se trouvait, il se précipita vers le salon, dont il ouvrit brusquement la porte. Un homme, la pipe à la bouche, étendu sur un canapé, parcourait des journaux. Grand, osseux, très blond, le visage maigre et intelligent, il semblait avoir de 40 à 45 ans. À l'entrée de Barouel, il tourna la tête en demandant avec tranquillité. « Eh bien, que vous arrive-t-il, mon cher ? Je vous apporte une nouvelle fort désagréable, Spitzfahrer. Le capitaine de Pinvalaz, dont nous avions été fort satisfaits d'apprendre la disparition, a réussi à s'évader, en même temps que notre jeune propriétaire, Mademoiselle de Valser, tenue en captivité par son oncle, notre excellent ami Mulbach. L'autre eut, lui aussi, un juron, et sa physionomie laissa voir la plus vive contrariété. Quelle malchance! Et tous deux! Mais pas ensemble, j'imagine.
Si, ensemble. Ils avaient donc pu parvenir à se réunir. Je n'y comprends rien.
Comment Mulbach n'avait pas-il mieux surveillé sa nièce? Spitzfahrer donna un coup de poing sur l'accoudoir du canapé, ce qui fit sursauter les chiens danois étendus à quelques pas de là.
Ça faisait si bien notre affaire d'être débarrassés de ce Pinvalaz. Nous étions beaucoup plus tranquilles, parce que ce n'est pas la vieille dame qui aurait jamais eu l'idée de venir jeter chez nous un regard indiscret par cette issue dont nous n'avons pu encore déterminer la situation dans le dédale de ces souterrains.
Oui, en effet. Quoique, au fond, il soit bien improbable que le marquis soupçonne quelque chose et songe à venir nous ennuyer là.
C'est improbable, mais non impossible.
Il suffirait d'une imprudence ou d'une trahison.
Une trahison? Auriez-vous idée?
De rien pour le moment, mais ce sont des choses qui arrivent, et il est toujours bon de prévoir. Or, en pareille occurrence, une menace de ce genre est fort dangereuse. Voyez-vous, si on envahissait notre installation, et si on nous tombait sur le dos un beau jour, en se servant de ce passage, qui, à peu près, certainement existe, et que connaît, à n'en pas douter, monsieur de Pinvalaz. L'aventure ne serait pas intéressante, en effet. Il va falloir redoubler de prudence quand le châtelain sera là, pour ne donner prise à aucun soupçon. Et mademoiselle de Valser, pour nous, son évasion n'a pas d'importance, car notre bail court toujours et tout est en règle. Mais c'est fort désagréable pour Mulbach, dont elle a dû naturellement percer à jour certains agissements. Barwell, ou plutôt Elmer, pour lui restituer son véritable nom, dit d'un air soucieux. Pourvu qu'elle n'en ait pas appris trop long sur certaines choses, sur nous et notre besogne ici, par exemple. Par qui aurait-elle pu? Ce n'est pas Mulbach qui lui en aurait rien dit, je suppose.
Oh, lui non, mais sa femme était au courant, elle aussi. En causant avec la jeune fille, elle a pu se laisser aller à quelque indiscrétion, à quelque parole imprudente.
Je ne le pense pas. Mulbach semble avoir en elle une très grande confiance.
Oh, je ne dis pas qu'elle l'aurait fait avec préméditation. C'est une fort bonne Allemande, son mari me l'a certifié plus d'une fois, mais dans la conversation on peut se laisser aller à parler plus qu'on ne voudrait. Enfin, de tout cela nous ne savons rien, il n'y a qu'à attendre, à voir venir et à surveiller.
Comme Elmer s'en allait vers la porte, Spitzfahrer demanda « Avez-vous fini de lire les notes que vous a fait parvenir Madame de Ronchet ?
Au sujet des mesures que préparent les amirautés anglaises et françaises pour enrayer l'action de nos sous-marins ?
Oui. C'est assez intéressant, mais il y manque des précisions. La comtesse m'a fait assurer qu'elle les aura. Je n'en doute pas, car elle est supérieurement habile, cette femme-là. »
Spitzfahrer ajouta un rire sardonique aux lèvres.
« Et les Français, comme leurs amis anglais d'ailleurs, se gardent si mal. C'est un jeu d'enfant que d'espionner chez eux, même en pleine guerre. Madame de Ronchet a du reste des facilités particulières. Sa nationalité suisse éloigne tout soupçon. En outre, elle est veuve d'un Français tombé au champ d'honneur, et elle a les plus belles relations dans toutes les sphères. Son dévouement aux blessés, dans l'hôpital qu'elle dirige, lui met au front une auréole. Bref, on la tient pour une parfaite Française, et nous verrons à la fin de la guerre la Légion d'honneur récompenser son ardent patriotisme. » Il se mit à rire, et son compagnon lui fit écho. Puis Spitzfahrer remarqua. « On n'a plus d'autres nouvelles du baron de Reichensfeld, depuis que Madame de Ronchet nous a appris qu'il avait été blessé, puis amputé. Non, ces nouvelles sont d'ailleurs assez récentes, et nous en aurons d'autres, la comtesse étant toujours fort bien renseignée par l'intermédiaire de Mulbach, qui ont à Genève et à Zurich des agents chargés de toutes communications utiles avec l'Allemagne. » Après un instant de silence, Elmer ajouta « Je me demande ce qu'il va faire maintenant, monsieur de Reichensfeld. Borgne et une jambe de moins, ce n'est pas un homme à rester inactif. Bah, il trouvera bien encore moyen de s'occuper une fois la guerre finie. De plus belle, nous continuerons d'envahir la France pacifiquement, puisque l'autre invasion n'a pu réussir comme nous y comptions. Les agents d'espionnage seront utiles,
et le baron comptait parmi les meilleurs. Un pli se formait sur le front de Elmer. Après un court silence, il murmura. « Si cela continue encore un peu de temps, nous serons terriblement épuisés, à tout point de vue, Spitzwarer. Oui, aussi faut-il nous arranger pour terroriser nos ennemis, de quelque manière que ce soit. Notre campagne de sous-marins doit continuer, impitoyable, en dépit des récriminations. C'est bien d'ailleurs l'idée de notre empereur. Les neutres protesteront par des notes, et puis encore par des notes. On fera semblant de leur donner satisfaction, et on recommencera dès qu'en viendra l'occasion. Et voilà, mon cher, comment on se moque des gens, quand ils n'ont rien à vous opposer. Que d'inoffensifs papiers, par quoi s'exhale leur indignation. » Dans son court billet, Alain n'avait pas mentionné sa mutilation, car il se réservait d'y préparer sa grand-mère. Armel eut donc un moment de forte émotion quand, à l'hôpital d'Amiens, où l'officier avait été amené à la suite de ses terribles aventures, elle se trouva en présence de son frère. Mais la joie de le revoir vivant et déjà presque remis des dures fatigues endurées eut vite raison de ce premier saisissement. Il devait en être de même pour l'aïeul quand, par les lettres de Madame de Marcy et d'Alain, elle connut la vérité au cours des jours suivants. Monsieur de Pinvalas fit à sa sœur le récit des événements qui s'étaient produits depuis le moment où il avait été amené, blessé et prisonnier, à l'ambulance du château de Vanelle. De l'existence de Florita, depuis qu'il avait cessé de recevoir ses lettres, quelques jours avant la déclaration de guerre, jusqu'à l'instant où il l'avait vue entrer dans la petite salle réservée aux blessés français, l'officier ne connaissait que les grandes lignes. Sa fiancée n'ayant jamais eu la possibilité de causer un peu longuement avec lui, même au cours de leur fuite, où, sans cesse, ils devaient être sur leur garde, et ne pouvaient prolonger le temps de leur repos au-delà du strict nécessaire. Il apprit à Armel que pour le moment, il ne connaîtrait pas autre chose, la jeune fille étant frappée d'une sorte d'amnésie, que les médecins déclaraient d'ailleurs passagère. Elle occupait une petite chambre à l'hôpital civil où elle avait été transportée. Sa blessure se trouvait en bonne voie de guérison et il n'y avait aucune apparence de complication possible à ce sujet au dire des deux médecins qui l'avaient examinée. Alain ajouta, « Ce qu'il faut soigner surtout, c'est l'état général, ce sont les nerfs atteints par la fatigue physique et surtout morale. Ma pauvre petite Florie a passé par de terribles angoisses, surtout depuis qu'elle savait que Mulbach et ce Reichensfeld étaient complices. Quel que soit son courage et sa force d'âme, il n'est pas étonnant qu'une réaction se produise, maintenant qu'elle n'a plus à lutter et qu'elle se trouve en sécurité. » Armel demanda, « Te reconnaît-elle ? » ?»« Oui, et quand je lui parle de toi, de grand-mère, de Runesto, elle se rend très bien compte, mais d'elle-même, si je ne ravive pas ses souvenirs, elle ne se rappelle rien. » C'est étrange. Et les médecins croient que cela se passera? Ils l'assurent même. D'ailleurs, je consulterai encore pour elle à notre passage à Paris. Car dès qu'elle ira mieux, et que j'aurai moi-même obtenu un congé de convalescence, nous partirons pour Runesto. C'est là certainement qu'elle se remettra le plus vite. Alain parla aussi à sa sœur de Stevisky, le Polonais, considéré comme prisonnier, mais auquel des faveurs seraient accordées, étant donné sa nationalité et les services inappréciables rendus aux deux Français. Puis, le jeune homme eut un souvenir ému pour Caroline Dussault, victime de son dévouement, et pour la vieille Palmyre, grâce à laquelle les fugitifs avaient pu franchir, heureusement, l'étape finale. Armel n'en revenait pas de la duplicité de Mulbach. Et encore, Alain et elle ne connaissaient-ils qu'une partie du rôle de ce personnage, Florita n'ayant pas eu le loisir, à Vanelle, d'en instruire complètement son fiancé. Monsieur de Pinvalas conclut. « Enfin, grâce au ciel, notre Florie a échappé au plus effroyable péril qui la guettait en la personne de ce Mulbach et de son complice, le misérable que j'ai eu bien tort de ne pas écraser pendant que je le tenais à ma discrétion, car ce n'est qu'un bandit. Quant à Madame Mulbach, elle nous a trompés comme son mari. Mais d'après le peu qu'a pu m'en dire Florita, elle s'est repentie à ses derniers jours et s'est fort inquiétée de laisser sa nièce aux mains de Mulbach. Elle-même lui a recommandé de fuir, de tout risquer plutôt que de rester prisonnière de cet homme. Et sais-tu encore ce que Florie m'a appris? Que la fameuse Elsa était allemande et ne s'appelait pas Hoffel. Ah, par exemple! Mais les papiers de son père, cependant. Florida n'a pas eu le temps de me rien expliquer à ce moment-là, et maintenant, il faudra attendre que la mémoire lui soit revenue.